Bonjour à tous, voici l'émission de l'Église protestante unie de Chartres, Beauce et Perche, animée par Jean-Paul et Marie-Christine de Heuvels. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour Marie-Christine et bonjour à tous.
Et aujourd'hui, nous allons réfléchir sur la parabole des ouvriers de la 11e heure.
Donc la première lecture se trouve dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 55, les versets 6 à 11. Recherchez le Seigneur puisqu'il se laisse trouver. Appelez-le puisqu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme malfaisant ses pensées. Qu'il retourne vers le Seigneur qui lui manifeste sa tendresse, vers notre Dieu qui pardonne abondamment. C'est que vos pensées ne sont pas mes pensées et mes chemins ne sont pas vos chemins. Oracle du Seigneur. C'est que les cieux sont hauts par rapport à la terre. Ainsi mes chemins sont hauts par rapport à vos chemins et mes pensées par rapport à vos pensées. C'est que, comme descend la pluie ou la neige du haut des cieux, et comme elle ne retourne pas là-haut sans avoir saturé la terre, sans l'avoir fait enfanter et bourgeonner, sans avoir donné semence au semeur et nourriture à celui qui mange, ainsi se comporte ma parole, du moment qu'elle sort de ma bouche. Elle ne retourne pas vers moi sans résultat. Après avoir exécuté ce qui me plaît et fait aboutir ce pourquoi je l'avais envoyé.
Et maintenant, nous allons écouter la parabole des ouvriers de la 11e heure dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 20, les versets 1 à 16. Le royaume des cieux est comparable en effet à un maître de maison qui sortit de grand matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec les ouvriers d'une pièce d'argent pour la journée et les envoya à sa vigne. Sorti vers la 3e heure, il en vit d'autres qui se tenaient sur la place, sans travail. Et il leur dit, « Allez vous aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Sorti de nouveau vers la 6e heure, puis vers la 9e, il fit de même. Vers la 11e heure, il sortit encore, en trouva d'autres qui se tenaient là et leur dit « Pourquoi êtes-vous restés là tout le jour sans travail ?»« C'est que, lui disent-ils, personne ne nous a embauchés. » Il leur dit « Allez, vous aussi, à ma vigne. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant « Appelle les ouvriers et remets à chacun son salaire, en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux de la 11e heure vinrent donc et reçurent chacun une pièce d'argent. Les premiers, venant à leur tour, pensèrent qu'ils allaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi une pièce d'argent. En la recevant, ils murmuraient contre le maître de maison. « Ces derniers venus, disaient-ils, n'ont travaillé qu'une heure et tu les traites comme nous, qui avons supporté le poids du jour et la grosse chaleur. » Mais il répliqua à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas de tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'une pièce d'argent ? Emporte ce qui est à toi et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de mon bien ? Ou alors, ton œil est-il mauvais parce que je suis bon ? Ainsi, les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. »
Is a wild and precious thing. It don't grow on old magnolias or only blossom in the spring. No, the glory of true love is it will last your whole life through. Never will go out of fashion. Always will look good on you. You can climb the highest mountain, touch the moon and stars above. But old faithful just a fountain compared to the glory of true love.
La parabole de Jésus dans l'évangile de ce jour, au chapitre 20 de Matthieu, est un de ces textes difficiles, scandaleux même, de Jésus. Et je ne suis pas sûr que nous soyons prêts à le recevoir, ni vous ni moi, en ce moment, avec notre morale et notre piété. Nous découvrons une fois de plus que Jésus est un provocateur. Nous découvrons encore une fois que l'évangile est scandale et qu'il me scandalise, moi, tout chrétien que je sois, tout membre d'Église. Je suis sûr de faire partie de ceux qui, dans la parabole, ronchonnent contre le patron de la vigne, contre Dieu. Je fais partie de ceux qui ont l'œil mauvais et la langue vipérine, de ceux qui n'admettent pas la grâce et l'amour pour ceux de la 11e heure, pour ceux qui n'ont rien fait de leur journée, qui n'ont rien fait de leur vie. Vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon, dit Dieu.
Chouraki traduit plus exactement, plus près du texte grec, « Ton œil est-il mauvais parce que moi, je suis bon ?» Eh bien oui, notre œil est mauvais parce que Dieu est bon. En réalité, si nous ne pardonnons pas à ceux de la 11e heure, et si nous ne pardonnons pas à Dieu de leur pardonner, c'est parce que nous n'admettons pas non plus la grâce et l'amour de Dieu pour nous. C'est parce que chacun de nous est en réalité un ouvrier de la 11e heure devant Dieu. Et nous ne savons pas comprendre la grâce et le pardon de Dieu pour nous-mêmes. D'une certaine façon, nous nous plaçons tous pourtant, par notre situation, notre nationalité, notre morale et notre piété, nos œuvres et notre dévouement à la famille, à la société ou à l'Église, par notre sens des responsabilités, par notre secret orgueil de protestants, de chrétiens, en tête à tête avec Dieu. Nous nous plaçons donc tous plus ou moins dans cette parabole des ouvriers de la vigne, soit parmi les premiers, ceux qui ont travaillé dès la première heure, soit au moins dans l'honnête moyenne, ceux qui ont travaillé à partir de la troisième, de la sixième, voire de la neuvième heure, mais bien rarement comme étant vraiment et uniquement des ouvriers de la 11e heure.
Et c'est là un peu notre camouflage. D'une certaine façon, nous pensons que notre salaire auprès de Dieu, nous le méritons par nos œuvres. Nous sommes tout de même différents de la racaille, des chômeurs, de ceux qui ont gâché les 11/12 de leur journée par leur paresse, de ceux qui ont gâché les 11/12 de leur vie. Nous sommes les premiers, nous avons peiné à la tâche, nous avons commencé tôt. Nos parents nous avaient déjà appris à vivre dès notre enfance, à être responsables, à payer de notre personne, à nous donner de la peine à l'école, dans l'église, dans la famille, dans le travail, dans la société en général. Tu les as fait égaux à nous, protestent les premiers, égaux à nous qui avons porté le poids du jour et de la chaleur.
Or, justement, Jésus a raconté cette histoire, selon Matthieu, en citant par deux fois, avant l'histoire et à la fin de l'histoire, une autre parole scandaleuse. Il dit d'abord à la fin du chapitre 19 « Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. » Et il le redit ensuite au chapitre 20, en conclusion de la parabole, la même phrase, en commençant différemment « Les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. » La première fois, Jésus dit cette parabole par allusion au jeune homme riche qui avait accompli toute la loi dès son enfance. Du moins le croit-il, par allusion aux riches en général, riches d'obéissance et riches d'argent. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Encore une autre parole scandaleuse de Jésus.
Et quand ses disciples lui font remarquer que eux, ils ont tout quitté et qu'ils l'ont suivi, qu'ils se sont en quelque sorte dépouillés de tout, qu'ils sont devenus volontairement et par sacrifice, par amour, par foi, par fidélité les derniers ? Jésus leur répond justement, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Vous, vous avez pris des risques, au risque de vous faire mal voir et mépriser, tant de la société aisée que de la communauté religieuse à laquelle vous appartenez, qui vous accusera d'avoir suivi un homme qui, comme les prophètes, mettait la miséricorde et l'amour au-dessus de la loi, ou enfin comme loi suprême.
Vous étiez parmi les premiers. Vous avez accepté d'être les derniers par amour pour moi. Eh bien, je vous le dis, vous serez les premiers dans le royaume de Dieu. Mais les choses ne sont pas si simples que cela. Les choses ne sont jamais simples. Le danger, c'est qu'un jour, les disciples anticipent le classement promis pour le royaume de Dieu et se l'approprient déjà maintenant. C'est le danger de retomber sans cesse dans la théologie du salut par les œuvres. De se dire, nous avons tout quitté pour le Seigneur. Nous avons accepté le dépouillement total, les sacrifices. Par amour, nous avons suivi cet homme crucifié. Nous n'avons pas cherché notre plaisir, mais l'obéissance à sa volonté.
En acceptant d'être les derniers, nous sommes devenus en réalité les premiers. Nous sommes les premiers. Nous sommes les meilleurs chrétiens puisque nous sommes protestants. Nous avons la meilleure théologie. La parole que Jésus adresse à Pierre et à ses disciples qui ont tout quitté, qui ont accepté une sorte de dépouillement, de sobriété de vivre, cette parole s'adresse bien aussi à nous qui avons accepté d'être volontairement les derniers. Les premiers seront les derniers. Les derniers, nous qui sommes arrivés au XVIe siècle par la Réforme, nous serons les premiers. Et pourquoi nous serons ?
Back before I was a movie star, straight off of the farm, I had a picture of another man's wife tattooed on my arm. With a pack of Camel cigarettes in the sleeve of my t-shirt, heading out to Hollywood just to have my feelings hurt. That town will make you crazy, just give it a little time. You'd be walking round in circles down at Hollywood and Vine. You'd be waiting on a phone call at the wrong end of a broom. Yes, that town will make you crazy, crazy as a loon. So I headed down to Nashville to become a country star. Every night you'd find me hanging at every honky-tonking bar. Pretty soon I met a woman, pretty soon she done me wrong.
Vous écoutez Radio Grand Ciel, l'émission de l'Église protestante unie de Chartres-Beauce-et-Perche. Simon Martin est à la technique et les pauses musicales sont extraites d'un CD de John Prine, Fair and Square. Dès le matin, il embaucha des ouvriers pour sa vigne. Ces ouvriers, c'est nous. Ou, à la rigueur, ceux de la troisième heure. Vers la troisième heure, il en vit d'autres qui étaient là, sur la place, sans rien faire. Il rencontre là les premiers chômeurs. Il les embauche. Au premier, il avait promis un denier, ce qui était le salaire d'une journée de travail. À la troisième heure, déjà, c'est plus discutable. La journée ne sera pas entière. Alors le Seigneur emploie une formule qui a éveillé mon attention. Il leur dit « Allez vous aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera juste. » Et c'est la même chose à la sixième heure et à la neuvième heure. « Je vous donnerai ce qui sera juste. »
Je me suis dit, nous voici déjà dans l'injustice aux yeux du Seigneur, aux yeux du patron, aux yeux de Dieu. Il n'y a déjà plus de contrat chiffré pour le salaire comme pour les premiers. C'est déjà l'amour de Dieu qui nous rencontre sur le chemin de notre vie, au carrefour de nos difficultés à vivre, de nos découragements, de nos désœuvrements. Nous sommes déjà chômeurs, voilà 3 heures que la journée a commencé et nous sommes là sur la place, en plein milieu de notre vie, sans rien faire, sans savoir quoi faire, chômeurs. Nous nous disons déjà, j'ai tel âge et je n'ai encore rien fait de ma vie, rien de valable. Vais-je vraiment rater ma vie ? Mais la question se repose plus tard, cela devient de plus en plus grave. Les heures de la journée ont passé, pour revenir à la parabole. C'est la 6e heure, le milieu de la journée, et nous n'avons encore rien fait quand nous rencontrons le Seigneur. C'est la 9e heure, nous sommes aux 3/4 de notre vie, à la retraite ou presque, et nous sommes mécontents de nous-mêmes et inquiets. Il y a des signes de fatigue et de maladie, que puis-je espérer désormais ? Et le Seigneur vient là encore à notre rencontre, et c'est la même parole. Il leur dit, allez vous aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera juste.
Ce qui sera juste, non pas la justice humaine, la justice normale, c'est-à-dire selon les normes, selon les pouvoirs de chacun, selon la force et les mérites, selon la santé et les diplômes, parfois justice de classe, parfois justice de race, justice des sociétés, les privilégiés, les exclus, les premiers, les derniers. Quoi qu'il en soit, elle s'appelle toujours justice. Et encore heureux quand il y a des lois et qu'on les respecte, et qu'on a la chance de vivre dans un pays démocratique et libre comme le nôtre. Dans le meilleur des cas, donc, une justice juste. Ceux qui ont supporté le poids du jour et la chaleur seront récompensés de leur labeur et de leur sueur. Les autres, les paresseux, ceux qui détruisent eux-mêmes leur propre vie par leur conduite, ceux qui gâchent eux-mêmes leur chance, tant pis pour eux.
Eh bien non, dit le Seigneur. Cela aussi, je les accepte. Pour cela aussi, il y a l'espérance. Pour cela aussi, j'ai du travail. Pour ceux d'entre vous qui sont découragés de leur vie, qui sont dans un sentiment d'échec, de frustration, angoissés d'être délaissés et non aimés, d'être oublié et non sollicité, non embauché, il y a la justice de Dieu, c'est-à-dire l'amour de Dieu. Car celui qui paie pour vous, c'est celui qui vous aime. Il paie pour vous jusque sur la croix du Fils. D'ailleurs, juste à la fin de cette parabole, en Matthieu 20, Jésus annonce sa mort. « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré, ils le condamneront à mort. »
You and me, sitting in the back of my memory, like a honeybee, buzzing round a glass of sweet Chablis. A radio's on, windows rolled up and my mind's rolled down. Headlights shining like silver moons rolling on the ground. We made love in every way love can be made. We made time look like time could never fade. Friday night, we both made a guitar hum. Saturday made Sunday feel like it would never come. Gonna be a long Monday, sitting all alone on a mountain by a river that has no end. Gonna be a long Monday, stuck like the tick of a clock that's come unwound again.
Il nous a donné ce qui est juste. Il nous a donné son amour. Il nous a donné sa vie. C'est la logique de l'amour. C'est la justice de l'amour. C'est le miracle de l'amour. C'est la vie redevenue possible à la troisième, à la sixième, à la neuvième et même à la onzième heure de la journée. Car voici le moment poignant de cette histoire. Le Seigneur sortit encore vers la onzième heure. La journée est pratiquement finie. Le soleil est parti, on va bientôt fermer les portes. Il n'y a plus aucune chance pour ceux qui ont raté le coche. Le dernier train de la vie est parti. Il me reste peut-être quelques années à vivre, peut-être seul. Je me sens souvent inutile. J'ai l'impression que personne n'a plus besoin de moi. Je n'ai vraiment rien fait de ma vie. Je suis un chômeur de la vie. Un chômeur de longue, de très longue durée. À la onzième heure, je peux dire que je suis un chômeur total, un maudit. Je n'existe pas, je n'existe plus.
Je pense qu'en réalité, chacun de nous est un peu cet homme-là, quel que soit son âge, quelles que soient ses capacités. La mort et le néant sont le lot de tout homme. Le salaire du péché, c'est la mort, disait Paul. Et il le disait pour tous, pour nous tous. Mais certains le ressentent plus fortement. Alors pourtant le Seigneur les rencontre. Le Seigneur nous rencontre maintenant, là où nous sommes, à la onzième heure de notre journée, à l'heure où nous nous posons la question terrible du sens de notre vie, nous posons la question aussi de la mort. Vers la onzième heure, le Seigneur sortit encore. Il en trouve d'autres qui se tenaient encore là et leur dit « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent « C'est que personne ne nous a embauchés. Alors vous aussi dans la vigne, leur dit-il. »
Toute la journée sans rien faire, toute notre vie inutile. Mais pourquoi sans rien faire ? C'est que personne ne nous a embauchés. Eh bien, qui que vous soyez, quel que soit votre âge, quelle que soit votre situation, quelle que soit votre solitude, et même si personne jusqu'ici ne s'est approché vraiment de vous, si personne ne s'est vraiment intéressé à vous, si personne ne vous a embauché, si personne ne vous a aimé, écoutez l'évangile de ce jour. Écoutez et recevez la bonne nouvelle pour vous personnellement, pour vous de la onzième heure et de la dernière chance. Car l'évangile parle toujours de cette dernière chance. Le Seigneur nous dit « Moi, je vous embauche. Je vous embauche aujourd'hui, tout de suite. Ne perdez plus de temps, ne perdez plus une minute. Ne réfléchissez pas à l'inutilité de travailler pour une seule heure dans la journée. Moi, je vous embauche. Moi, je vous dis de vivre. C'est ma justice, la justice de mon amour. Allez-vous aussi dans la vigne, leur dit-il. »
Quelle étonnante parabole que cette histoire des ouvriers de la vigne. Jésus l'a racontée, bien sûr, parce qu'on l'accusait de s'occuper des derniers, des laissés pour compte, des délaissés, des exclus, des pécheurs, des ouvriers de la onzième heure, parce que Jésus prétendait les sauver, parce qu'il prétendait qu'il y avait un espoir pour eux. Jésus a été condamné pour les autres, parce qu'il a toujours gardé un espoir pour ceux de la onzième heure, pour les péagers et les pécheurs, pour les derniers, pour les tardvenus, pour la centième brebis, pour ceux que nous continuons, nous, oui nous, avouons-le, à mépriser et à rejeter avec notre œil mauvais et notre langue méchante.
L'appel, l'exhortation, nous la trouvons ce matin dans l'autre texte du jour que nous avons lu au chapitre 55 du livre d'Ésaïe. « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. » À la onzième heure de notre vie, en nos jours de découragement et d'angoisse, l'Éternel se trouve encore. Il vient encore rôder sur les places publiques, sur notre lit de maladie, sur nos chemins bouchés. À toutes les onzièmes heures sans espoir de notre vie, il nous embauche, il nous réhabilite, il nous envoie en mission dans sa vigne, il nous envoie travailler, il nous envoie vivre une merveilleuse douzième heure. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. C'est la onzième heure dans votre vie, très souvent, d'une façon ou d'une autre. Alors, précisément maintenant, cherchez l'Éternel.
D'ailleurs, c'est lui qui vous cherche. Donc, nécessairement, vous allez vous rencontrer. que le méchant abandonne sa voie, poursuit Ésaïe, qu'il se convertisse, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. C'est-à-dire, il y a toujours un espoir jusqu'au jour de notre mort, jusqu'à la dernière heure, jusqu'à la 11e heure. Aujourd'hui, Dieu vient vers vous. Il vous rejoint là où vous êtes, peut-être découragé, peut-être désespéré, pour vous confier une mission. Personne, je dis bien personne, n'est inutile dans la vigne de Dieu, dans la vie.
L'amour de Dieu dépasse nos calculs mesquins et notre suffisance. On ne demande pas de compte à Dieu. On n'enferme pas sa bonté dans nos pauvres limites. Mes pensées ne sont pas vos pensées et mes chemins ne sont pas vos chemins. Dieu est plus grand que notre cœur. Amen. Je vous dis au revoir et à bientôt.
Au revoir et à bientôt.
I believe it was yesterday. I would have invited him in, but I didn't have a lot to say. His anticipation of me opening the door outweighed my apprehension as it never had before, and drove my concentration right through that hardwood floor. Ooh, my heart, I'm taking a walk. I'm going outside. I'm taking a walk. I'm just getting back. There's a girl in the White House. I don't even know her name. Disheveled appearance speaks volumes of shame. It's an embarrassing situation, but a situation just the same. The way she walks on others and never takes the blame upsets my constitution beyond its mortal frame. Ooh, I'm taking a walk.
Taking a walk.
I'm going outside.
Going outside.
I'm watching the birds. I'm just getting back.